Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve le vendredi et le samedi pour Kabbalat Shabbat ou Mélève et Malka. On l'appelle comme on veut, en fait, puisque tout dépend du jour où on écoute cette émission. Et nous sommes en ligne, comme chaque semaine, avec Ravéli Lemel. Bonsoir, Ravéli Lemel. Shabbat Shalom. Bonsoir. Ou pareil, ou Shavua Tov. Je ne saurais pas trop comment vous
Shabbat
présenter
shalom,
ce soir.
Shavua Tov, pas de problème. Tous les souhaits sont bons.
un bon Shabbat, puisque de toute façon, c'est avant ou après. Ou je sais pas, ou un bon mois de qui se lève. Ça, c'est pas mal aussi comme façon
tout
de...
Tout bon.
De se souhaiter des vœux. Et donc, on arrive... là, on est à Toldot. Et alors... Rav Lemel, vous avez eu envie de parler d'un sujet qui est tellement contemporain, qui correspond, qui est... on dit tout le temps, vous savez, là, d'abord déjà, un, la paracha correspond toujours à ce qu'on vit, bon, à ce moment-là, dans cette semaine-là, et deuxièmement, elle est parlante évidemment pour nos vies actuelles en 2020, même si elle est très ancienne, l'anxiété de Rivka. Et là, je pense que vous allez parler au cœur de beaucoup de gens. Parce que s'il y a vraiment un adjectif qui qualifie notre période, les incertitudes, les inquiétudes de nos vies, c'est l'anxiété.
Exact. C'est vrai que l'anxiété fait partie de la vie de tout à chacun. Il y a des moments dans lesquels on peut être anxieux, évidemment. Ça fait partie de notre réalité. Et c'est vrai que cette anxiété de Rivka, elle émerge à travers une histoire un petit peu particulière. Mais je pense qu'on va pouvoir peut-être aussi ramener ça à une problématique peut-être plus actuelle. Rivka, en effet, vous savez, ne peut avoir d'enfant avec son époux Yitzhak. Et le texte nous dit que les deux sont en prière, l'un face à l'autre. Une image d'ailleurs extrêmement belle, c'est-à-dire que chacun prie pour l'autre. Au fond, ici, c'est le désir que l'autre souffre moins, même si c'est qu'indirectement. Ben, Yitzhak, c'est que le jour où Rivka aura un enfant, il aura le bonheur lui aussi d'en être le père, et Rivka c'est la même chose, mais c'est la préoccupation de ce que l'autre est en train de vivre qui les agite, et je crois qu'il y a ici une idée extrêmement puissante, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais à bien retenir. Et puis ça y est, Rivka devient enceinte, suite à leur prière, eh bien elle porte ce qu'elle croit être un enfant, mais en vérité elle en porte deux. Et le texte nous dit « Vaitro tzotzu abanim bekirba » c'est-à-dire que Rivka, en tant que ses enfants, on va utiliser un terme un peu fort, s'entrechoque à l'intérieur d'elle, et elle est bouleversée, et elle va demander en effet à la yeshiva de Shem Ve'ever un conseil, mais que se passe-t-il? Et puis la réponse qui lui est donnée, eh bien, c'est « Ah non, non, tout va bien, ce n'est pas un enfant, ce sont deux enfants, mais tout va bien, quoi. Ils vont sortir de ton ventre, et puis après, eh bien, sache que déjà au moment de leur naissance, ils vont être en antagonisme, en opposition, ça va être la guerre, et puis ça continuera toute l'histoire. Au fond, on annonce la naissance de Yaakov et de Esav. Et là, on a l'impression que c'est tout va bien. Alors, la réponse est totalement bouleversante. Et essayons d'analyser d'abord le point de départ de cette anxiété. Le point de départ de cette anxiété, c'est 19 mètres. Rivka se retrouve au fond dans un univers dans lequel elle est dans une grande incertitude. Pourquoi, disent les textes, que lorsqu'elle passe devant des lieux qui symbolisent ce que l'on va appeler le monde de la Kdoucha, de la sainteté, de la grandeur, eh bien, elle voit qu'il y a des agitations à l'intérieur d'elle, et quand elle passe devant des lieux qui symbolisent le contraire, eh bien, elle voit qu'il y a une agitation. Et donc, au niveau symbolique, elle est en train de se dire, mais au fond, serait-ce à dire que cet enfant que je porte à l'intérieur de moi va être et à la fois ici et à la fois là, donc il sera nulle part, hein, il sera nulle part cet enfant, puisque j'ai l'impression que les deux univers le concernent, et c'est quelque chose qui la bouleverse. Et au fond, on a ici un petit peu ce que j'appellerais la racine de son anxiété. La racine de son anxiété, c'est d'avoir un doute sur un chemin, sur une direction, sur quelque chose qui au fond crée un axe. Elle se dit, mais au fond, comment peut-on imaginer quelqu'un qui, dans la vie, ne sait jamais sur quel pied danser, ne sait pas se positionner, pense qu'il est et à la fois ici et à la fois là, et à la fin, il ne se retrouve nulle part. Et cette réponse qu'on lui donne, eh bien, paradoxalement, la rassure parce qu'on est en train de lui dire « Non, non, je te rassure, ce n'est pas un enfant, ce sont deux, et chacun d'entre eux va avoir un positionnement, va avoir une direction, va avoir un axe. C'est vrai que ces axes différents vont créer des antagonismes, c'est sûr, et on va le voir tout au long de l'histoire, mais néanmoins, il y a donc ici deux axes différents de positionnement. » Et au fond, si on réfléchit, peut-être que cette problématique d'anxiété, c'est quand on n'a pas décidé de prendre un axe dans le moment dans lequel on n'a pas pris de direction, le moment dans lequel on s'interroge sans arrêt, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que j'aurais dû faire. Et nous savons, disent nos maîtres, que « en simcha ela que atarata sekot ». Il n'y a pas de plus grande joie que lorsque l'on a réglé un doute. Et c'est là où, en effet, il y a quelque chose qui se propose à nous. Il y a en effet des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas régler les doutes pour l'instant parce que nous n'avons pas les compétences. J'ai un doute, est-ce que le confinement va durer? J'ai un doute, est-ce que les événements, ils sont là, les éléments, tu ne les as pas. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on peut régler son doute, pardonnez-moi, en décidant que l'on ne peut avoir de réponse et que donc ne pouvant avoir de réponse, eh bien, on prend et on décide de quelle manière nous allons vivre les choses. Et c'est ça, je crois, qui est aussi extrêmement important. Le choix que l'on va faire, comment nous décidons de vivre les choses, quel regard nous décidons d'avoir, quelle posture nous voulons avoir vis-à-vis de ces choses-là. Et même par rapport à des choses qui sont banales, quelle est la lecture que l'on décide d'avoir d'un événement et comment on se positionne par rapport à cela. L'anxiété, c'est l'univers de ce qu'on appelle bilbulada. Bilbulada, c'est quand on ne sait plus vraiment où on n'en est pas. D'ailleurs, dans des textes que l'on a l'habitude de dire, dans la tradition ashkénaze, au moment de Soukhot, le dernier jour de Soukhot, au moment où on fait ces fameuses Hoshanot, vous savez, ces mouvements de tour autour du lieu sur lequel on lit la Torah avec les Lulavim, hein. On a le Lulav, l'Etrog, et puis on tourne autour, et bien à un moment, on lit des textes qui sont très très intéressants, et les traditions ont des textes différents, mais qui sont tous passionnants, et justement, un texte dit « Shalosh Shaot Hoshana », les trois dernières heures, les trois heures sauvent nous. Et alors, c'est quoi ces trois heures? Et on dit, ben ça, c'est les trois heures. Alors, est-ce que c'est trois fois 60 minutes? Je ne pense pas. C'est en tout cas un moment qui précède la venue du Mashiach. Et nos maîtres de dire, et c'est quoi ces trois heures? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils nous disent, c'est trois heures de bilbuladat. Trois heures dans lesquelles l'esprit est complètement embrouillé. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. On est persuadé que ça doit marcher de cette manière, mais en vérité, c'est d'une autre manière qu'il fallait faire. Et donc, ce bilbuladat, au fond, c'est quoi son problème? Eh bien, c'est qu'on oublie à ce moment-là de se recentrer sur ce que l'on doit faire à des moments pareils, c'est-à-dire prendre un axe et être à l'intérieur de celui-ci et aller jusqu'au bout. Au fond, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que les personnes s'interrogent sans arrêt sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, alors que de toute façon, ça ne changera strictement rien. C'est un petit peu ce que va faire Rebecca. Rebecca, et dans ce bilbuladat, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça va se passer? Mais un enfant qui est comme ci, comme ça, alors comment je vais devoir l'éduquer? Mais... Et puis on lui dit non, non, non. Voilà, il y en a un qui va aller là, un qui va aller là. Ah! Alors évidemment, c'est bouleversant quand on va lui dire qu'elle va voir Essav. Mais à ce moment-là, il y a une forme de tranquillité. Pourquoi? Parce qu'elle sait quel est le travail qu'elle va devoir faire. Le travail qu'elle va devoir faire, c'est en effet donner des forces à Jacob, pour qu'il puisse se confronter à son frère qui veut l'amener dans une direction à un moment et que Jacob puisse en effet être dans le chemin qu'il a décidé d'avoir et ne pas lâcher cette direction. Il y a à ce moment-là une détermination claire, il y a un mouvement clair et évidemment, les choses sont différentes. Au passage, par rapport à cette notion d'anxiété, eh bien, il y a un texte qui nous dit « De la même manière que c'était une obligation de dire une chose qui peut être entendue, de la même manière c'est une obligation de ne pas dire une chose, de ne pas dire une chose qui ne peut pas être entendue. » Et j'ai envie d'élargir cela à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des médias. Au fond, être entendu, c'est parce qu'il y a une raison pour que les gens l'entendent. Si la chose ne peut pas être entendue, c'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien de le dire, alors dans ce cas-là, pourquoi tu le dis? Aujourd'hui, les médias disent, mais on peut peut-être inverser le propos, est-ce que c'est une mitzvah d'aller et d'écouter tout ce qui se dit? Est-ce que c'est une obligation d'augmenter ses doutes avec des opinions à droite, à gauche, des suppositions en tout genre. Si quelqu'un a un axe, si quelqu'un sait quelle est la direction qu'il veut prendre, personnelle, qui ne dépend pas du cadre dans lequel nous sommes, évidemment qu'à ce moment-là, les choses sont totalement différentes. Et peut-être que c'est ça, au fond, ici, l'enseignement que nous pouvons essayer de prendre de ce qui s'est passé avec Rivka et essayer de, justement, savoir nous inspirer de la dynamique qui a été la sienne par la suite.
C'est tellement vrai, j'allais dire, c'est tellement beau ce qu'on vient d'entendre, Ravili Lemay, le bilbou, la date, qui nous rappelle... on entend tous « Ah bon, alors donc le Mashiach va arriver parce que tout le monde y pense. » Mais vraiment, cette histoire où bien comprendre aussi que... Regardez, Dieu sait que c'est mon métier, mais tous ces plateaux télé avec tous ces experts médicaux qui sont tous sûrs d'une chose, c'est qu'ils ont raison et qu'ils vont être démentis dans 2 minutes. Très, très belle dracha. Merci infiniment, Ravili Lemay. Et excellent. À la semaine prochaine. Shabbat shalom ou Shavua Tov.
Shabbat shalom et Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai.
Bonsoir, Shabbat Shalom ou Shavua Tov.
Absolument.
Pour celles et ceux qui nous écoutent.
Suivant le jour où nous diffusons cette émission, sur le jour où les gens écoutent cette émission, donc le vendredi soir ou le samedi soir. Rav Mordechai Bitton, alors vous voulez réfléchir sur un sujet bien particulier et qui, je crois, a quand même interpellé énormément de monde à travers les générations. Finalement, Yitzhak veut donner une bénédiction à un homme, soyons clairs, qui est un rachat. Alors, c'est quand même, on s'est plus ou moins quand même souvent posé la question, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Le tzadik des tzadiks, celui qui a été capable de se laisser sacrifier, de dire même au contraire j'y vais, etc. Mais finalement, il veut donner une bracha à un homme qui est un rachat. Alors, comment dit-on en français un rachat? Quelqu'un de profondément méchant.
La question, elle a une grande acuité parce qu'en fait, au début de la paracha de Toldot, on nous dit que Yitzhak aimait Esav parce que, une forme très intraduisible en français, qui tsaïd befi, parce qu'il le chassait avec sa bouche. On va revenir sur cette formulation. On voit à la fin que quand Esav vient devant Yitzhak en disant « Mais moi, je veux une bénédiction. T'as qu'une seule bénédiction. Tu peux donner qu'une bénédiction qu'à Yaakov et tu peux pas me donner à moi de bénédiction. » Là, on voit que finalement, Yitzhak va s'adresser à lui dans un premier temps en disant que Yaakov récupère les bénédictions, mais va quand même lui trouver aussi une bénédiction donc à lui donner. Alors, la question est encore plus forte lorsqu'on lit la paracha, qu'on voit qu'à aucun moment il est mentionné que Yitzhak aime Yaakov. Qu'on nous dise qu'il aime Yitzhak, il faudra s'interroger et comprendre pourquoi, quelle est la nature de cet amour. Mais qu'on ne nous dise pas qu'il aime Yaakov, ça ne fait qu'accentuer le déséquilibre, et donc ça pose la question avec toute son acuité. Pourquoi la Torah met en exergue, en avant, l'amour de Yitzhak pour Esav, alors qu'il est clair dès le départ qu'on a affaire à un individu qui est l'affreux Jojo par excellence, si je puis dire les choses trivialement. Alors, le Mirtav Meliaou répond, et il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a une raison à cet amour, et la Torah le donne. C'est que Kitzaïd depuis, il chassait avec sa bouche. Alors, Mirtav Meliaou va dire la chose suivante. De manière tout à fait prophétique et inconsciente et subconsciente, le Midrash nous rapporte que tous les jours, il y a une voix qui sort du Mont Sinaï et qui dit « Malheur aux insultes qui sont faites à la Torah, malheur aux insultes et au mépris dont la Torah donc est victime. » Cette voix prophétique, subconsciente en quelque sorte, nous dit le Mirtav Meliaou, elle est le moteur, elle est l'origine de toutes les pensées de Teshuvah qu'il peut y avoir dans le monde. Autrement dit, chaque jour se déverse dans le monde une force, une possibilité de faire Teshuvah, de devenir mystique. Et elle va se poser. Et Yitzhak a vu que cet enfant-là, qui était en fait en apparence un enfant complètement dévoyé, un enfant qui désirait tout abandonner, et ben de temps en temps, il venait lui poser des questions de halakha. Alors c'est vrai que c'était des questions entre guillemets bêtes, des questions stupides. Il lui demandait est-ce qu'on peut prélever donc le maaser, la dîme, sur le foin ou autre chose, des choses sur lesquelles on n'est pas tenu de faire. Mais malgré tout, il avait quand même un questionnement minimal des questions de halakha, des questions de loi. En d'autres mots, il a vu que la sainteté qui peut exister dans le monde, avait en quelque sorte un minimum d'emprise sur Esav. Et donc, Esav, Esaü, n'était pas complètement déconnecté de la sainteté. Donc, comme il a vu cette connexion minimale, alors il a dit, cet enfant, il a besoin d'être aimé. Ça veut dire qu'il n'a pas complètement rompu le lien. Il n'est pas aliéné. Il n'a pas complètement cassé le lien avec la Torah. Et la question qui se pose ici est, s'il l'avait rompu complètement, il ne l'aurait pas aimé. Il l'aurait aimé, mais il n'aurait pas pu exprimer son amour. C'est ça que la Torah est en train de dire. S'il avait complètement rompu le lien, il aurait certainement aimé, parce qu'un père aime ses enfants. Il aurait peut-être exprimé cet amour. Tandis que là, ici, il a vu qu'il pouvait exprimer cet amour, parce que Esav, il pouvait exprimer un minimum d'attache. Alors, à la fin de la paracha, Esav vient, il pleure. Il dit, mais pourquoi tu ne me donnes pas à moi une bénédiction? Tu as donné à Yaakov, tu peux m'en donner une. Et là, Yitzhak devient complètement tranchant. Le père aimant, il disparaît complètement. Il dit, non, Gam Baruch Yeh. Yaakov, il conserve la bénédiction. Toi, tu peux pas avoir cette bénédiction. C'est fini, c'est réglé. Alors, il lui dit, mais t'as qu'une bracha. Et là, il lui parle béni. Il lui dit, mon fils. Et il lui dit quelque chose. Il lui donne une bénédiction. En fait, qu'est-ce que la Torah est en train de dire ici? Elle est en train de dire que Esav, qui est le fondateur de l'Occident, en fait, que le monde occidental, aussi dévoyé soit-il, aussi aberrant puisqu'il nous apparaître à nous, vu du Beit HaMidrash, en fait, c'est un monde qui a des valeurs de référence, comme Esav, qui sont des valeurs de référence, même enfouies, mais qui sont des valeurs qui ont un lien avec la spiritualité, qui ont un lien avec la Torah, qui ont un lien avec le divin. C'est-à-dire qu'en vérité, l'Occident qui va sortir de Esav, et Esav lui-même finalement, ils ne peuvent pas réellement penser exister en dehors d'une certaine attache avec l'origine qui est la Torah, qui est Israël. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale, parce que même dans ce qu'on vit aujourd'hui avec le monde occidental, c'est qu'on a affaire à un monde qui tente par tous les moyens de se défaire de son origine juive. Ils disent judéo-chrétiens, mais son origine juive, mais en fait, il ne peut pas s'en défaire. Parce que c'est un monde dont les références culturelles profondes, spirituelles, religieuses, viennent de la Torah. Même si elles sont niées, comme Esav va le faire tout au long de sa vie, même si on tente de les gommer, en fait, elles sont là, elles sont présentes, et c'est ce qu'on retrouve au travers de ce dialogue entre Yitzhak et Esav, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. C'est quelque chose qu'on va tenter de nier, mais c'est quelque chose qui est là et qui ne peut pas disparaître et qui ne peut pas être complètement nié et effacé. Il y a dans l'Occident, dans la pensée occidentale, il y a chez Esav une origine juive, une origine, un lien originel avec le judaïsme qui tente d'être trahi, mais qui ne peut pas être trahi parce qu'il est là et il a finalement permis à Esav et à tous ceux qui vont venir derrière d'exister. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas renier. Voilà.
Eh ben, c'est une leçon qu'on va garder. En plus, c'est un peu synonyme de dialogue aussi, de dialogue entre les cultures. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Shabbat shalom. Shavuot tov.
Et nous sommes en lien avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chah.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Maria Chah. On n'arrête pas de le dire. Shabbat Shalom si c'est pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Et Shavuot Tov pour ceux qui retrouvent Melave Malka le samedi soir à 19h. Alors Maria Chah, on va aborder avec vous aussi. Je crois que vraiment ce soir on est touché par la grâce dans cette émission. On va aborder un sujet extraordinaire. De profondeur et d'enseignement, on revient sur Rivka, et vous dites, on va vous écouter, vous allez nous dire, vous allez illustrer cette idée, ça peut arriver à n'importe qui, d'avoir un enfant qui file pas, qui est pas tel qu'on aurait voulu, qui est pas dans le chemin, dans ce qu'on lui a appris, dans son éducation, ça peut arriver à tout le monde, et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec son fils, ou sa fille, on l'aime. Alors, je vous écoute.
Ouais, absolument. J'ai voulu vraiment développer cette idée dans cette paracha, parce qu'il faut le dire, quand on a une première lecture un peu superficielle, hein, un premier regard, je vais dire, sur la paracha, on a vraiment l'impression que dès le début, vous avez le gentil, vous avez le méchant, vous avez celui qui étudie, vous avez celui qui fait les 400 coups, vous avez un plus aimé que l'autre, ou autrement aimé que l'autre, en tout cas, et puis même à la fin, le méchant veut tuer le gentil. Bon, ça c'est une vision extrêmement superficielle. En réalité, on a ici, c'est vrai, deux jumeaux bien différents au niveau de leur caractère, mais n'oublions pas qu'il faut de tout pour faire le peuple juif. N'oublions pas que si Abraham, premier monothéiste, a servi Dieu Et ce qu'il a incarné, lui, dans sa personne, c'est le chesed, c'est-à-dire l'expansion, la bonté, la générosité. Son fils, Yitzhak, lui, est bien différent et il incarne la rigueur. Et c'est une autre façon de servir Dieu et c'est certainement un foyer très différent. Et Rivka, d'ailleurs, sa femme, pardon, c'est encore une autre façon. Parce que elle, ce qu'elle incarne, c'est la toute première Baalat Teshuva, la première femme à faire Teshuva, on va dire, dans la Bible, puisqu'elle est issue d'une famille d'idolâtres, voire même d'une famille de pourris, en réalité, de tordus. Et elle est extraordinaire. Et elle a, elle aussi, sa façon à elle de servir Dieu. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui explique le premier Rashi qui nous met un peu mal à l'aise dans cette paracha quand ils sont tous les deux face à face en train de prier pour avoir le bonheur d'avoir un enfant et que la paracha, le texte dit que Dieu écoute en premier lieu la prière de Yitzhak et Rashi, comme pour rendre la question encore plus profonde, encore plus difficile, dit mais oui parce que ce n'est pas pareil, ça ne se ressemble pas, hein. La terminologie c'est ça ne se ressemble pas, il ne dit pas que c'est mieux, il dit ça ne se ressemble pas, la tfila, la prière d'un tzaddik fils de Rashi, pardon, d'un tzaddik fils de tzaddik par rapport à un tzaddik fils de Racha, en l'occurrence Rivka tzaddeket, fille de personne Rechaim. Et on est un peu mal à l'aise, on se dit mais finalement pourquoi ? Alors ce que Rashi dit c'est ça ne se ressemble pas, c'est-à-dire que Yitzhak a dû initier, a dû innover, il vient d'une famille, pour reprendre l'expression d'Astérix, il est tombé dans la marmite petit, hein, il vient de cette famille extraordinaire, là, le foyer d'Abraham, et il initie, il innove dans un service de Dieu complètement différent. Et Rivka, un autre, encore différent, et les deux ont de la valeur, mais ils sont différents. Eh bien, cette lecture, c'est la lecture qu'on doit avoir quand on aborde Yaakov et Esav. Différents, parce qu'il faut de tout dans le peuple d'Israël, parce qu'il faut des Ashkenazim, des Sfaradim, des Lituaniens, des Chassides, des Chabad, il faut des gens qui votent à droite, il faut des gens qui votent à gauche, et c'est ça la pluralité et la beauté du peuple d'Israël. Et donc, on peut imaginer que Yitzhak et Rivka voient leurs deux bambins grandir, l'un ayant un attrait extraordinaire pour la bibliothèque, pour les livres, pour l'étude, et l'autre a un attrait pour l'extérieur, et nous avons besoin de Juifs à l'extérieur, de Juifs qui vont servir à Kadosh Baruch Hu de cette façon-là, en allant dehors, par exemple, en faisant du business. On a l'exemple merveilleux de Yosef HaTzadik, qui a été un immense politicien, un immense businessman, qui a réussi tout ce qu'il touchait, et qui est Yosef HaTzadik, pour autant. Donc, ce n'est pas monolithique, il n'y a pas une façon de servir Dieu, il n'y a pas une façon d'être dans la Torah, il y en a de multiples. Mais voilà que Esav ne file pas droit, puisque le seul endroit où dans le texte cette semaine de Toldot, il est écrit textuellement que Rivka et Yitzhak sont malheureux, ont eu de l'amertume, pour reprendre le texte, c'est quand Esav épouse des femmes idolâtres. Il ne le voit pas du tout d'un bon œil, mais là encore, on peut se dire que il va les ramener, il va les faire avancer, il va les faire grandir, il va au contraire être un moteur pour les hisser. Donc, je crois que tout au long de la paracha, on peut avoir un nouveau regard et se dire qu'en réalité, Yitzhak et Rivka ont bien compris qu'ils ont deux enfants différents, mais que chacun trouvera sa façon à lui de servir son Créateur et que tout est possible. Et que tout est possible, et d'ailleurs quand enceinte, elle est un petit peu anxieuse et qu'elle veut savoir ce qui se passe à l'intérieur de son ventre, pourquoi ça bouge dans tous les sens, on va lui dire « Shnei Goyim Bitner », il y a deux nations, et puis elle entend « Shnei Geyim », elle entend « il y a deux grandes personnalités ». Dit Rashi, c'était Antonin et Rabbi Yehuda Anassis, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Rivka entend « Shnei Geyim », deux grandes personnalités, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas envisager autre chose que de la grandeur pour ses enfants. Et alors, je voudrais m'arrêter sur ce passage extrêmement intéressant après qu'elle ait demandé à son fils Yaakov de prendre la bénédiction que Yitzhak voulait donner à son fils Esav. C'est Yaakov qui va la recevoir et comme on le sait, Esav est extrêmement en colère. Il est extrêmement en colère, mais là, réellement, sa colère va prendre une forme terrible parce qu'elle l'entend dire « Je souhaite tuer mon frère par vengeance ». Elle l'entend dire ça directement. Et que doit penser une maman qui entend quelque chose d'aussi abominable ? Alors évidemment, elle veut mettre son fils en sécurité, donc elle dit à Yaakov « Enfuis-toi chez Lavan ». Et ce qui m'interpelle, c'est que quand elle s'adresse à son époux Yitzhak, elle ne lui dit pas la vraie raison. Elle ne lui dit pas « sache que j'ai entendu et savent dire ». Elle lui dit uniquement « Yaakov doit se soucier à se marier à une fille de notre famille et donc il part chez Lavan ». Elle ne lui dit pas du tout, elle ne rapporte pas, si vous regardez le texte, elle ne rapporte pas l'autre raison. Comme pour dire qu'elle ne veut pas influencer le regard de son mari parce que finalement, nos enfants vont avancer, vont grandir, vont réussir à extérioriser d'eux le meilleur d'eux-mêmes, même si on a l'impression déjà qu'ils prennent un petit peu la tangente et que ce n'est pas comme on le souhaite. Mais ce qui ne pourrait que les enfoncer, c'est qu'on ait un regard figé sur eux. Donc, elle va faire en sorte de ne pas transformer le regard de Yitzhak sur son fils, de maintenir ce regard candide, pour ainsi dire, afin que Esav ne soit pas enfermé dans une image qu'on pourrait avoir de lui. Et il est tout à fait légitime qu'on se pose la question, mais quelle est l'image que elle, Rivka, a de ce fils-là, revanchard, de ce fils violent même? Et là, on a un verset juste exceptionnel, le verset de la fin de Toldot, où donc Yitzhak envoie son fils Yaakov chez Lavan. Donc pour lui, c'est uniquement pour épouser une fille, ce n'est pas parce qu'il est en danger. Et le texte dit Lavan, donc le texte nous rappelle qui est Lavan. Vous vous souvenez, Lavan, fils de Betuel, frère de Rivka. Bon, et le texte aurait pu s'arrêter là. Lavan, qui est donc le frère de Rivka, point. Non. Le texte continue et dit « frère de Rivka, elle-même, maman de Jacob et Esav, aime Yaakov et Esav ». Comme si on ne le savait pas. Hein. On fait plusieurs chapitres qu'on ne parle que de cette Rivka qui est la maman de ces deux jumeaux. Et voilà qu'à la fin, de toute cette histoire délicate qui se passe dans Toldot, on nous dit « Rivka, maman de Yaakov et Esav ». Mais alors le plus étonnant dans tout ça, c'est Rashi. Il y a un Rashi, je pense, assez connu. Ici, il est connu parce qu'on est très étonné de ce Rashi. Parce que Rashi, qui est le plus grand exégète de la Torah, qui sait nous dire de façon concise des révélations extraordinaires sur des psukim, la plupart du temps pashtan, mais des fois qui apporte le midrash. Enfin, Rashi apporte un éclairage exceptionnel. Et on sait bien que Rashi, s'il écrit quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. C'est pas possible qu'il écrive s'il n'a rien à dire. Et or, voilà que sur cette phrase-là, Rivka, maman de Yaakov et Esav, Rashi écrit textuellement « Je ne sais pas ce que cela veut nous enseigner. » Eineni yodea. Je ne sais pas ce que cela veut nous enseigner. Alors, on s'arrache les cheveux sur la tête, là, parce qu'on se dit, alors, de deux choses l'une, soit Rashi n'a rien à dire, et dans ce cas, il ne dit rien, soit il a envie de nous dire qu'il y a une difficulté dans ce pasouk, alors il aurait pu nous dire quelle est la difficulté, et qu'il n'a peut-être pas de solution, mais on n'a jamais vu ça chez Rashi. Donc là, il ne nous fait part ni de la difficulté qu'il a, ni du fait qu'il aurait une solution éventuelle. Il dit simplement, je ne sais pas. Comme si c'était pas possible qu'il ne dise rien. Parce qu'en ne disant rien, on ne se serait pas arrêté sur ce pasouk. C'est seulement en disant quelque chose qui ne dit rien que l'on va s'arrêter sur cette phrase incroyable, Rivka, maman de Yaakov et Esav. Eh bien, ce que je voudrais ici développer, c'est la chose suivante. C'est que si Rashi nous avait dit, écoutez, voyez cette maman affligée par son fils qui a l'air de ressembler plus à sa généalogie à elle qu'à celle de Yitzhak, qui a l'air de suivre le très mauvais chemin. Voyez cette maman affligée, comme c'est difficile. Eh bien, rassurez-vous, mes amis, elle aime toujours son fils Esav. Eh bien, si Rashi avait écrit cela, parce que spontanément, c'est ce qui nous vient, cette maman est toujours la maman de Jacob et Esav. Mais Rashi ne veut pas écrire ça, parce que l'écrire textuellement, ce serait d'une certaine façon envisager que le contraire eût été possible. Qu'on peut imaginer qu'une maman ou qu'un papa renonce à son enfant parce que son enfant est tombé plus bas que bas. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, Rachid se refuse d'écrire cette explication. Mais en même temps, il veut que l'on se dise, nous, des siècles après Rachid, il veut qu'on vienne et qu'on se dise, ah ben, ça ne doit pas être une épreuve facile dans la vie. Et voilà que la Torah elle-même vient terminer tout cet épisode des deux fils jumeaux si différents en le résumant par Rivka et la maman de Yaakov et Esav. Mais, encore une fois, Rachid ne peut pas l'écrire parce qu'il ne veut pas que l'on puisse envisager que ce soit possible autrement. Comme s'il disait « c'est tellement évident, pourquoi la Torah a besoin de le dire ?» Et moi, Rachid, encore moins, je n'ai même pas besoin de le préciser, tellement que c'est évident que l'amour des parents se doit d'être inconditionnel. Alors certes, il n'y a pas de garantie à cet amour inconditionnel, parce que finalement, c'est la liberté de Esav de devenir ce qu'il est devenu. Mais pour nous lecteurs aujourd'hui de la Torah, et pour nous qui avons, je vous assure Bernard, combien de fois je reçois des appels de mamans effondrées parce que leurs enfants fréquentent des non-juifs et ils ne pouvaient pas se l'imaginer, parce que leurs enfants n'ont absolument pas tenu et ne continuent pas le chemin et les valeurs qu'ils leur ont inculquées. Et la seule et la première et la plus importante des choses à dire à ses parents, c'est « soyez une Rivka, maman de Yaakov et Esav ». C'est-à-dire que cet amour se doit d'être inconditionnel. Et presque comme Rachid, j'ai presque envie de dire que je suis gênée de le dire. Mais je sais qu'il faut le dire. Je sais qu'on se doit de le dire. Et que si nous avons la paracha de Toldot avec toutes les difficultés, on va dire, en termes d'éducation qu'elle soulève, eh bien c'est pour que nous, aujourd'hui, on sache qu'il n'y a aucune garantie dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Évidemment, ayons cette humilité. Et en même temps, je crois que la seule chose que nous devons faire à l'infini, sans compter et sans aucune condition, c'est juste de les aimer parce qu'Hachem nous les a confiés. Il nous a confié des Neshamot et il est de notre devoir, quelle que soit la direction qu'ils prennent, de les aimer sans la moindre condition. Donc voilà, un Shabbat encore et une semaine encore pour aimer encore et encore nos enfants.
Sans condition. On a bien entendu le message, mais il y a cette anecdote extrêmement connue du Rabbi Lubavitch qui a dit un jour, quand tu vois quelque chose de l'obscurité, donc ton fils a décidé d'abandonner par exemple le judaïsme, ou Chas v'Shalom, il veut plus faire Shabbat, ou je sais pas, part avec des amis qui vous inquiètent, etc. Ne rajoute pas de l'obscurité à de l'obscurité, rajoute de la lumière. Elle est très connue cette phrase, très très connue. Il dit, ne lui dis pas, mais qu'est-ce que tu fais, blablabla. C'est vraiment la suite de ce que vous venez de dire. Dis-lui, regarde, on a un super Shabbat, tu restes pas avec nous. Regarde, c'est super, on va bientôt Hanouka, qu'est-ce que tu veux, un cadeau, tu veux. Mets de la lumière. Je crois que vous vous inscrivez directement dans cet enseignement-là. Mariacha, je sais que vous avez une lettre. On peut imprimer ce que vous enseignez. J'ai essayé de le faire et je n'y suis pas arrivé. Comment je fais pour trouver votre cours par écrit?
Alors, en fait, le cours de chaque semaine est écrit, est mis par écrit sur des feuillets qu'on peut d'ailleurs dédicacer à la mémoire ou pour la bracha de qui on veut. Mm-hmm. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous envoyez un message et vous recevrez immédiatement le feuillet gratuitement. C'est le 06 27 66 49 24. Voilà, 06 wow. 27 66 49 24.
06 27 66, excusez-moi. Vous voyez que je suis intéressé. 06 27 66
49 24.
49 24, d'accord. Et on le reçoit comment? Par WhatsApp?
Vous recevrez, ouais, par WhatsApp, version PDF imprimable. Magnifique. Chaque semaine, voilà, pour se régaler spirituellement à la table de Shabbat.
Magnifique, et c'est gratuit, c'est pas du tout une question d'argent.
Absolument.
Bah, c'est absolument. Super. Super. En plus, si on a des choses aussi belles que tout ce qu'on a entendu ce soir, on va s'abonner. Hein. Maria Chadré, merci. Excellente soirée à vous. Que ce soit un vendredi soir et donc un Shabbat ou un Melave Malka. Excellente soirée à vous, Maria Chadré. À la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir. Mm-hmm.
Chaque semaine sur Radio Shalom 5 minutes, une halakha, et nous sommes en ligne avec Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir à vous, Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi et Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi soir. Donc aujourd'hui dans notre parasha, il y a la question du mariage. Et je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'on appelle un mariage dans la loi juive ?
Qu'appelle-t-on un mariage ? Bon, ça, je pense que vous le savez, je vais vous détailler plutôt quelles sont les étapes du mariage. Vous savez que dans l'appellation courante, on a l'habitude de parler de fiançailles et ensuite de mariage. Ce que nous appelons le fiançailles traditionnel, la rencontre entre les parents, la petite fête, halakhiquement, ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire que si, après un fiançailles, un couple décide de se séparer, il n'y a pas de guette, il n'y a rien. Et d'ailleurs, les Ashkenazim appellent ça un vort. Vort qui signifie une parole. Alors bien qu'une parole, c'est une parole, on ne casse pas une parole. Mais quand une parole a été cassée, il n'y a pas besoin de plus qu'une parole pour la casser. Maintenant, après arrive la vraie étape qui s'appelle l'étape du mariage. L'étape du mariage est constituée de deux parties, en fait, que nous faisons à la suite, nous les faisons sous la choupa. Une première partie qu'on va appeler les kiddushin ou les irusin, qu'on pourrait traduire faussement par fiançailles, qui consiste à réserver l'épouse pour le marié et le marié uniquement. Cette étape se fait par l'intermédiaire d'une bague. Donc on donne la bague à la kala et on lui dit « Ariat mekudeshetli, tu vas être réservé pour moi ». Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la jeune mariée a accepté cette bague qui est la preuve de kiddushin, eh bien elle est réservée à son futur mari. Vous remarquez que j'ai utilisé le terme réservé et pas le terme marié. Alors si on arrête là en réalité et qu'ils veulent se séparer, il faut déjà un guet pour casser cette union. Mais ce n'est pas une union complète. Ça veut dire qu'à ce stade-là, ils n'ont pas encore le droit de vivre ensemble. À ce stade-là, si par exemple, imaginons un malheur, donc c'est un Cohen et qu'elle venait à décéder, ils n'auraient même pas le droit d'aller à l'enterrement puisqu'il n'est pas encore considéré comme marié avec elle. C'est juste des iroussines, c'est une liaison qui fait que cette femme devient interdite au monde entier et réservée pour une future alliance avec lui. Maintenant, à l'époque de la Mishnah, ils attendaient un an entre les deux étapes. Nous, on attend quelques minutes entre les deux étapes. On lit la Ktouva, en fait, pendant ces quelques minutes. Et puis après arrive l'étape des Nisouin. Les Nisouin, donc on fait une bracha pour les Nisouin. Puis chez les Ashkenazim, il y a un Yichoud. Chez les Sfaradim, il n'y a pas d'Yichoud. Ils vont juste s'isoler en rentrant chez eux le soir à la maison. Mais on considérera cette deuxième étape comme étant les Nisouin, la Choupa, le vrai mariage à proprement parler. C'est à ce moment-là que la femme est considérée comme étant la femme, l'épouse de son mari. Ces deux étapes-là sont des étapes qui sont indispensables. Et nous faisons, nous, les deux étapes sous la Choupa, l'une à la suite de l'autre.
Le choix des témoins, est-ce que c'est important?
Oui. Extrêmement important. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, Bernard, vous penseriez que les témoins en mariage servent à quoi ? Je vous écoute.
Oh, je pense que dans le judaïsme, d'abord, déjà, il y a un contrat, parce qu'il y a la ketouva, donc il faut absolument deux témoins. Et deuxièmement, dans le judaïsme, tout passe par deux témoins. Je crois même qu'on, dans Kedushin, on voit que le shtar n'est pas très important, puisqu'on pourrait le faire en argile. Je crois que c'est les deux témoins qui font le mariage, en fait.
C'est pas mal, Bernard. Vous êtes pas mal du tout.
Merci.
Les témoins en mariage sont ce que l'on appelle des kiyoum. Ça veut dire que ce qu'on pourrait croire, c'est que les témoins sont là pour attester qu'un mariage a eu lieu.
Ah,
eh bien, au-delà de leur rôle d'attester que le mariage a eu lieu, c'est les témoins qui font le mariage. Ce qui veut dire que celui qui ferait un mariage sans témoin, mais il a donné la bague, il a fait tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas deux témoins kshérim aptes à témoigner qui ont assisté, même si toutes les étapes ont eu lieu et qu'on est sûr qu'elles ont eu lieu, il y a une caméra qui a filmé, il n'y a pas de doute, eh bien le mariage n'est pas valable. C'est pour ça que les témoins sont extrêmement importants. C'est eux qui font le mariage. Le choix des témoins est important. On prend des témoins qui ne sont pas de la famille, donc il ne faut pas que ce soit des gens, il y a des degrés familiaux qui sont considérés comme proches parents. On prend des témoins qui doivent respecter les mitzvot, ne pas transgresser intentionnellement une, ne serait-ce que même une seule des mitzvot de la Torah.
Shabbat. Par exemple, c'est ça en fait qu'on pose comme question.
Shabbat,
si quelqu'un se marie avec deux témoins qui ne sont pas Shomrei Shabbat, il est marié, à Pialacha je parle, il est marié ou pas ?
Alors là on rentre dans des situations auxquelles je ne vais pas répondre à la radio. À Pialacha on va considérer que oui, il est marié, mais on ne le fait pas. Après maintenant on rentre dans des vrais problèmes halakhiques. Maintenant c'est pour ça qu'aussi, sous la Choupa, et vous allez voir qu'on répond à votre question en même temps, que dit le Rav qui marie le marié et la mariée, donc il s'adresse au marié en lui disant « ce sont tes témoins exclusifs », puisque dans la salle, il a aussi des proches parents, et le marié pourrait considérer que tout le monde est témoin. Or, dans un groupe de témoins, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas cachère pour que tout le groupe soit annulé. C'est pour ça que le marié se concentre sur les deux témoins qui sont ses témoins exclusifs. Si jamais les témoins ne faisaient pas Shabbat, le mariage priori, on le considérera comme bon, mais là, il faut vraiment un Beit Din pour prendre ce genre de décision et sûrement pas quelqu'un à la radio.
D'accord. Alors, par contre, la Ketouva, c'est quoi ?
La Ketouva. La Ketouva, on a l'habitude au mariage de trouver que c'est très photogénique, la prendre en photo, d'avoir l'impression que c'est quelque chose qui vient acter ce qui s'est passé. En réalité, la Ketouva, c'est tout simplement un document, un shtar, donc un document contractuel dans lequel le khatan, le marié, s'engage à respecter un certain nombre de choses envers la kala, envers sa femme. Ce certain nombre de choses concernent et la vie du mariage, donc comment il prend sur lui de la nourrir, de la loger, de la chérir, mais en plus de ça, il est prévu dans la Ketouva aussi les situations qui sont moins agréables, des situations où il devrait se séparer, des situations où il y aurait un décès, et là, le marié s'engage à une certaine somme d'argent dans les situations où il devrait se séparer. Ces sommes-là sont écrites dans la Ketouva. Le rav, en général, qui fait le mariage, il explique au marié, voilà, tu vas t'engager sur quelque chose. Il lui fait faire kinyan, kinyan soudar. Vous savez que c'est comme ça qu'on fait une acquisition, c'est comme ça qu'on s'engage dans le peuple juif, c'est en soulevant un vêtement. Donc le rav fait soulever un vêtement et le khatan, le marié, s'engage à respecter tout ce qu'il y a écrit dans ce texte de la Ketouva, qui ne sont ni plus ni moins que des engagements contractuels que prend le marié envers la mariée.
Allez, je vais vous faire une question Covid, un peu triste, mais c'est un peu obligé. Le gouvernement ne nous a pas encore autorisé à prier en minyane. Je peux me marier et pourtant il nous autorise à nous marier. Alors, que dit la halakha ? Je peux me marier sans minyane ou pas ?
Alors, ça va être complexe. Ça va être complexe parce que se marier avec tout juste minyane, il n'y a pas de souci. Même si on n'est pas nombreux, il n'y a pas de souci. Se marier sans minyane, ça pose problème puisqu'il y a les Sheva Brachot que l'on récite sous la Roupa, qu'on ne peut pas réciter s'il n'y a pas Minyan. Donc il faudra à tout prix faire les Sheva Brachot. Alors vous allez me dire, on peut faire la première étape, on peut faire du mariage, les Kiddushin, faire les Nisuin sans faire les Sheva Brachot, n'en faire peut-être qu'une seule. Mais quand on regarde dans tous les poskim, c'est sujet à discussion. Et donc on évite de faire des mariages à moins de 10 personnes. Vous savez que quand on parle de mariage, on parle toujours de sujets qui vont être extrêmement sensibles, puisque ce sont des actes qui sont très souvent. Ce sont des actes qui ont des conséquences très lourdes au niveau de la halakha. C'est pourquoi on évite de se marier à moins de 10. Et si on doit se marier, pile 10 personnes suffisent, même si l'espace est très grand. Hein, mais il faut qu'il y ait un minyan qui assiste au mariage. Minyan, deux edim, c'est le minimum pour pouvoir faire un mariage.
Rav David Abendanan, vous allez me faire une promesse et vous êtes pris, sans avoir été prévenu. Vous nous referez un jour une dracha, vous nous expliquerez si l'une des trois conditions à l'Afrique pour le mariage sont valables chacune séparément ou s'il faut les trois. Je m'explique. Donc il faut une bague, il faut un contrat et il faut un acte sexuel dit la Gemara. C'est très facile, tout le monde connaît, c'est au tout début de Kiddushin. Mais est-ce que si j'en ai qu'un, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, est-ce que deux jeunes qui ont une relation sexuelle en pensant qu'ils vont se marier, est-ce que... Ça pose un problème.
Bah Bernard, je ne vais pas vous faire attendre un prochain cours. Tout d'abord, je vais revenir juste rapidement sur ce que vous dites. La Gemara ne demande absolument pas qu'il y ait trois choses. Elle ne demande qu'il n'y en ait qu'une seule des trois.
Ah voilà, c'est répondu tout de suite.
Nous n'en faisons qu'une seule des trois, et c'est l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on épouse une femme, on lui donne une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent, c'est une bague. D'accord ? On a l'habitude de donner une bague. Maintenant, un couple qui aurait une relation et qui ferait cette relation dans un état d'esprit de mariage... Ouais. Vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il faut des edim, que les edim sont des kioum. Ouais. C'est grâce aux témoins que le mariage a une validité. Donc maintenant, il n'y a pas de témoins, donc il n'y a pas de validité. Alors, il existe des situations où si deux personnes ont vécu ensemble à certains moments, et souvent dans le cas où ils ont eu des enfants, ou alors il y a eu une vie conjugale prononcée et longue, le Beit Din demande un get quand il y a une séparation. Mais le Beit Din demande un get, l'echatrila. Ça veut dire avant de remarier la femme, on demandera un get. Si en revanche, elle s'est remariée, on n'était pas au courant et on s'en rend compte après, eh bien, ce qui est fait, on considère que la première vie qu'elle avait eue, ce n'était pas considéré comme un mariage. Mais en tout état de cause, pour un vrai mariage, il faut deux témoins qui assistent à ce que la personne dise le marié dit à la mariée, Areat Mekoudeshetli, et on ne fait ça qu'avec de l'argent aujourd'hui, exclusivement.
Il est magnifique.
En fait, ouais, il est si magnifique, on voulait faire un mariage avec un papier, avec un contrat, il faudrait des halakhot aussi complexes que pour un get. Autant vous dire que personne ne le fait.
Personne ne le fait. Et d'ailleurs, bon, allez, je ne vais pas rajouter, mais j'ai envie de rajouter. Et la choupa. Mais la choupa n'est pas dans les trois conditions. Rav David Abendanan, vous êtes magnifique, parce que vraiment, j'atteste que vous avez totalement improvisé.
Et, avec plaisir, Bernard.
Vous n'étiez pas du tout au courant de mon piège. Et donc, chaque semaine sur Radio Shala, 5 minutes. Et Nanaha avec Rav David Abendanan.
Avec plaisir, Bernard.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bien, cette émission est à présent terminée avec un très beau cours de Rav David Abendanan. C'est donc à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom ou Shavua Tov, suivant le jour où vous écoutez cette émission.
Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine. שלום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי, אם השם לא ינה בעיס. שלום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי.